pas la peine.
Sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, désolé pour Bernard Lavilliers, on l'écoutera en entier une autre fois. Maintenant, place au second débat de la journée. Dominique, tu as le micro.
Voilà, bon, eh bien, on attame donc, comme on vient de le dire, le deuxième débat de la journée avec Jean-Louis Morand-Paul, et qui vient de sortir aux éditions Ressouvenance, dont il est l'animateur et le fondateur, un livre qui s'appelle Le banc des nations, essai sur la malédiction d'Israël. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de parler du conflit israélo-arabe sans que ça s'enflamme. Bon, vu la densité de la population qui nous écoute, là, je demanderai aux gens, surtout aux gens du fond, hein, de ne pas trop perturber le débat. Vous attendez des arguments et vous pourrez argumenter, n'est-ce pas ? Et il y aura la possibilité dans un second temps de poser des questions, etc. Nous allons commencer par, puisqu'on a la chance d'avoir l'auteur du banc des nations, de lui demander déjà qu'est-ce qui lui a donné l'idée de sortir ce livre, qui est un livre un peu particulier, puisque c'est, je ne sais plus combien il y en a, plus de 100 en tout cas, réflexion sur des aspects ou des discours qui sont tenus ou sur le conflit israélo-arabe, sur les juifs, sur les musulmans, sur... voilà, donc pourquoi tu t'es... voilà, tu as envie de faire ce livre?
Il y a d'abord une expérience ancienne, c'est-à-dire que ce sont les échos influents en Europe occidentale et en tout cas en France, sur ce conflit très ancien, chronique, pourrait-on dire. Ces échos, depuis longtemps, m'interpellent. Et pour d'abord l'éloge, l'apologie même, vraiment exagérée, des protestations contre Israël, impliquant, apologie impliquée par ces protestations, et qui est l'apologie portant sur les régimes dominant les Palestiniens, d'une part, sur l'écho international qui donne le sentiment que là se focalise la lutte contre le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, etc. Et apologie encore de systèmes nationalistes militaro-bureaucratiques qui recouvrent complètement les populations autrefois colonisées et qui les recouvrent pratiquement partout dans le monde. Nous avons donc un système d'indépendance nationale, entre guillemets, et qui se pare de la vertu anticolonialiste, on dira de nos jours décolonial, et la confusion à cet égard se poursuit, en renforçant un autoritarisme interne, une compromission délibérée avec tout ce qui peut être surexploitation écologique, hein, des matières premières, destruction des paysanneries autochtones, etc. Tout ceci recouvert par le fait que ce serait anti-occidental. On a une survivance là, un quasi refuge, si on veut, une dernière chance du système bureaucratique né en Union soviétique et qui s'était largement internationalisé entre les deux guerres mondiales et a fortiori renforcé ensuite. Donc, en ce qui me concerne, la formation, bon, disons, individu libertaire, anti-autoritaire assurément, fortement préoccupé par tout ce qui est trahison des révolutions, trahison entre guillemets, c'est-à-dire mise en scène, mise en ordre bureaucratique, répression de toute voix dissidente, des mouvements anarchistes quand il y en a eu, des mouvements sociaux d'une façon générale, et avec l'instauration d'un monde étatique autocratique à travers l'univers entier. Donc, ceci s'est passé dans le cours du XXe siècle partout avec la mise en scène, l'orchestration ou au moins la récupération et le fourvoiement de mouvements sociaux, de protestations partout. Donc partout sont arrivés des États très très forts, dont le Hamas, le Hezbollah, sont des sortes de variantes renforcées, aggravées par l'islamisme. Tu disais tout à l'heure, je parle des musulmans, en fait non, je parle des ultra-islamistes, je dirais, je définirais ainsi, disons, ultra-islamistes, c'est-à-dire une idéologie terroriste, un contrôle, axée sur un contrôle quotidien des mœurs à un niveau que l'on déplore en Iran, par exemple, depuis le mouvement d'il y a 2 ans, mais qu'on soutient, sans y penser, et sans le voir, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et partout où il peut envisager de s'implanter. Voilà. C'est, donc le point de départ, une sensibilité à cet égard très nette, le palestinisme occidental de la gauche, de l'extrême gauche, elle implique, sans en avoir l'air et avec une grande férocité de comportement, implique sans en avoir l'air un éloge de ces autocraties absolument condamnables. Alors, je pense aussi, sur ce plan-là, que ce serait rendre service, d'une part, à la base sociale palestinienne, pour celle qui ne suit pas, ne s'identifie pas au Hamas ou au Hezbollah, qui sont très populaires par rapport à leur société. Ce serait leur rendre service qu'internationalement on ne justifie pas ces pouvoirs et qu'on ne leur serve pas de courroie de transmission, de chambre d'écho, en hurlant dans les rues, en rejetant les uns les autres pour une raison ou pour une autre. Voilà. De même, on a beaucoup dit à propos de la France insoumise que lors des dernières élections, elle a axé beaucoup sa campagne électorale sur la sympathie, enfin sur le palestinisme pour se gagner une base musulmane supposée favorable au Hamas, par exemple, et de toute façon horrifiée, comme tout le monde, par les atrocités de la guerre en cours. Bien. On l'a beaucoup dit, et bon, le fait de mettre Rima Hassan au premier plan renforçait cette impression. C'est depuis, il y a eu quelques militants qui ont critiqué cela, parlant de campagne au faciès, par exemple. Mm-hmm. Bon, mais je pense à ce moment-là, là, ça devient complètement franco-français, comme contradiction, des divergences politiques, si l'on veut, c'est que, qu'est-ce qu'on renforce ainsi ? Et ce serait plutôt rendre grand service à la base supposée concernée, c'est-à-dire le prolétariat postcolonial des cités dont les descendants sont dans une situation, souvent, dans une situation de précarité prolétarienne très, très générale, qui est un peu renforcée qui est renforcée aussi, oui, par la ségrégation, un certain racisme, mais un racisme certain, mais qui n'est pas généralisé. Voilà, plutôt. Bon, ce serait leur rendre service que de leur dire non, les gens qui vont appeler au djihad dans des manifestations à Paris vous entraînent, veulent vous contrôler, veulent vous embrigader et vous entraînent au casse-pipe assuré, à l'enfermement socioculturel irrémédiable. Sont parmi les motifs. Voilà.
Mais ça fait déjà pas mal. Voilà. Et oui, parce que bon, moi j'ai lu ce livre et j'étais frappé quand même par cette recherche, cette rigueur d'essayer de remonter aux sources du conflit et montrer à quel point c'est pas dans les extrémistes, les manifestations extrémistes que se trouve la solution. Là, c'est plutôt la montée de l'extrémisme tant au niveau d'Israël, avec l'extrême droite au pouvoir, puisqu'on peut dire que c'est l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui, que dans les mouvements très populaires comme le Hamas, le Hezbollah, etc., et qui, sont vécus comme la résistance du peuple palestinien, encore que sur tous ces mots-là, tu as fait une recherche pour dire ce que ça recouvre, et c'est très éclairant parce qu'effectivement, on doit pouvoir dissocier ce qu'on appelle le terrorisme, donc dont les manifestations, on a vu les massacres, les derniers massacres, on a vu la répression militaire israélienne sur le peuple là pour éradiquer des organisations dites terroristes qui pour moi le sont, hein, je veux dire à partir du moment c'est la chose est claire, mais qui sont vécues par une grande partie, tu as dit retard connu que ces organisations Hezbollah, Hamas étaient populaires, mais bon, dans quelle mesure on les a pas poussés à cette seule alternative. Tu racontais par exemple que au moment de la création d'Israël, tous les pays arabes étant contre, ont fait la guerre, ils l'ont perdue cette guerre, et ils n'ont pas intégré tous ceux qui avaient fui le territoire, comme ça se fait un peu partout, et que donc il y avait manifestement une intention de garder des foyers irréconciliables en laissant une partie de la population dans des camps, hein, ce qui est toujours le cas. Moi, je suis toujours étonné que 80 ans après, on se retrouve encore, non pas 80, je raconte des conneries, là c'est plus récent que ça, mais en tout cas, ces gens-là n'ont pas pu se sédentariser quelque part dans un des pays en attendant un éventuel retour, s'il y a possibilité de retour. Voilà.
Oui, alors, maintenant, concernant les camps, je pense que les camps de réfugiés, entre guillemets, je vais expliquer pourquoi je dis entre guillemets, les camps de réfugiés, en partie, sont des cités, des banlieues, dont une partie des habitants ne sont pas palestiniens, une partie de ceux-ci se sont quand même exfiltrés et ont pu définir un autre avenir pour eux, et en partie donc ce sont des pauvres produits par l'économie et qui s'installent là maintenant. Alors évidemment le dernier conflit dans la bande de Gaza amène une nouvelle massification de réfugiés, ça c'est vrai. Et alors en ce qui me concerne, il y a une sorte de contradiction ou de tourment qui porte sur le fait que, pour moi, d'abord, et très important, il n'y a pas de génocide en cours à Gaza, mais si on dit cela, on a l'air de... si on dit aussi Israël, et l'armée israélienne effectue une contre-attaque, et ses cibles sont essentiellement militaires, mais des structures militaires spécifiques, et quasiment c'est la première fois dans l'histoire universelle que ça se produit ainsi. Bon, ce qui donne au conflit une tournure tout à fait dramatique pour les civils, bien sûr, pour l'ensemble de la société, mais en même temps ne constitue pas ni un génocide, ni des crimes de guerre au sens juridique, mais cette notion juridique, moi, me semble amorale. Bien. Alors, si je dis cela, je vais avoir l'air de soutenir, de dire on s'en fiche des morts, on s'en fiche des enfants. Bon, non. Maintenant, il y a une surexploitation médiatique et idéologique des atrocités de cette guerre, que sont atrocités analogues à tout ce que toutes les guerres contemporaine effectue, en Syrie, en Afrique et sûrement bien ailleurs. Et d'ailleurs, avec une densité bien moindre, heureusement, et une certaine distinction quand même. C'est-à-dire que si les populations sont prévenues, bon, c'est vrai qu'elles sont obligées d'aller ici, puis de retourner là. C'est absolument inconfortable. C'est des foules de souffrance et de privation, de précarisation, etc., etc. Bon, ça, c'est certain, mais toutes les guerres font ça. Toutes. Et de plus en plus, parce que la croissance démographique aura impliqué une surpopulation mégapolaire, absolument gigantesque, entretenue par les États et par les systèmes qui les exploitent. Et évidemment, c'est tragique. Donc ça, c'est incontestable. Maintenant, je pense que ça navre énormément d'Israéliens. Et une partie va se dire, oui, on s'en fiche, de toute façon, regardez ce qu'ils nous font. Alors maintenant, un des motifs du livre, c'est que je dois dire, la démarche initiale, j'ai été totalement traumatisé par le 7 octobre. C'est-à-dire, par mon histoire personnelle, je suis sensible à tout ce qui peut être meurtre de masse, sélection, hein, et puisque j'ai une certaine... un certain lien avec ce qu'a été l'histoire de la guerre d'Algérie en France. Et je suis très sensible à cela, donc je l'ai condamné s'agissant des Arméniens, y compris dans les luttes des années 1980, où le pogrom de Sumgayit a été un déclencheur terrible. Et à propos de l'histoire des Juifs d'Europe, à propos la guerre d'Espagne, on trouve aussi en plein d'autres occurrences. Et là, j'ai ressenti le vaste pogrom du 7 octobre comme un rebasculement dans cette atrocité dite historique, cette atrocité de l'histoire existante, et avec des modalités mises en scène qui ont, par surcroît, suscité de l'enthousiasme, du soutien, et pas seulement, mais aussi, hélas, parmi les populations palestiniennes, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie, mais aussi en Europe occidentale, aux États-Unis, etc. Et aux États-Unis, ça se donne beaucoup plus libre cours, parce que la liberté d'expression n'est pas en but aux petites arguties juridiques du système français, de sorte qu'à la limite, on peut menacer des Juifs d'être assassinés comme c'est arrivé le 7 octobre. C'est de facto, c'est arrivé des manifestants pro-palestiniens. Bon, d'autres cas comme ça, d'autres soutiens explicites, on ne dit même pas c'est de la résistance. Résistance, c'est un euphémisme d'ailleurs mensonger, mais on dit, non, c'est l'appel au meurtre, quoi. Voilà. Alors, cette façon de mettre en scène, de le planifier massivement, de le mettre en scène, de le communiquer immédiatement, de le transférer avec toutes les techniques modernes de réseau, de téléphone, maintenant c'est des téléphones télé auxquels d'ailleurs je ne comprends rien, mais de sorte que tout le monde a tout de suite cela. Et puis du coup Bondy à Beyrouth au matin du 7 dans les quartiers dits fiefs du Hezbollah, des militants tiraient en l'air en hurlant leur joie, et en sachant très bien ce dont il s'agissait, puisque des images des pires actes qui ont pu être commis étaient transmises, téléphonées, vidéo téléphonées, etc. C'est pousser un sadisme à un niveau difficilement imaginable, qui devient un facteur du drame en cours et alors maintenant c'est un nouveau mode de lutte et un nouveau mode d'existence politique. On assassine quelqu'un, on le découpe 50 fois et puis on se filme hilar, drogué d'ailleurs, mais et puis le système qui a équipé tous ces gens-là, qui les a organisés, qui les a préparés pendant des années, puisque la préparation de ce coup du 7 octobre elle remonte à 2017-2018, et l'entraînement a été continu avec un repérage par ailleurs technologique très poussé. On n'est vraiment pas, on me disait dans les années 70, les pauvres Palestiniens, ils peuvent que faire des attentats terroristes, c'est l'arme du pauvre. Là, dis donc, ce sont des pauvres qui ont des sacrés systèmes. Et bien des contestataires partout dans le monde, y compris dans les pays les plus riches et les plus démocratiques, entre guillemets, n'ont absolument pas tant de moyens pour lutter. Et espérons qu'ils ne veuillent pas lutter de cette façon. Voilà. Ça, c'est un autre motif.
Voilà. Donc, en fait, tu arrives quand même à faire le distinguo entre les intérêts des populations tant palestiniennes qu'israéliennes, des menées, alors que, bon, nous, dans les pays occidentaux, on appelle terroristes, du Hamas et du Hezbollah. C'est-à-dire que bon, d'après ton livre, si j'ai bien lu, tu y trouves des racines, historiques, hein, dans la mesure où d'emblée ces organisations ne laissent pas tellement le choix à Israël, dans la mesure où, par exemple, dans la charte du Hamas, il y a la destruction totale d'Israël. Donc, ça laisse peu de marge à réfléchir sur une solution. Alors, on est bercé au niveau des médias par deux États, etc. Alors que, bon, personnellement, moi, je suis assez d'accord avec ton analyse, c'est-à-dire que bon, la solution, c'est de peut-être de revenir à ce qui était la base au départ, c'est-à-dire un territoire où des gens qui n'ont pas les mêmes religions, qui pensent pas la même chose, eh bien, habitent dans le respect de chacun, si j'ai bien compris.
L'inconvénient, c'est ça. Enfin, la contextualisation, elle est souvent mise en avant pour justifier les menées des milices des milices palestiniennes, en disant bon, regardez ce que fait Israël, la ségrégation, le contrôle sécuritaire en Cisjordanie, les empiètements et la surdité de Netanyahou et a fortiori des groupes politiques extrême droite israéliens. Bon, alors ça, c'est une contextualisation qui est partielle. Si on regarde historiquement, il y a ce qu'on appelle le reflux arabe, qui a été constant et qui est dès l'origine, c'est-à-dire dès que s'installe, outre les populations juives qui existaient depuis des millénaires, à partir du moment, seconde moitié du 19e siècle, où s'installent des communautés juives nouvelles venues, voilà, qui viennent en partie d'Europe centrale et Russie, et en partie de pays arabo-musulmans. Bien. À partir de ce moment-là, le refus s'enquiste. Pourquoi ? C'est parce que les juifs sont des dhimmis, D-H, je prononce peut-être mal, hein, D-H-I-2-M-I, c'est-à-dire, comme les chrétiens et comme d'autres, les observateurs d'autres cultes, ce sont des inférieurs qui doivent des impôts spéciaux et qui ne doivent pas porter d'armes, ne doivent pas monter de cheval, doivent s'effacer devant un arabe quand ils le croisent, doivent marcher pieds nus dans certains secteurs, enfin dans les secteurs non réservés aux juifs, etc. Bien, qui sont spoliés à l'occasion et puis l'objet de pogroms assez fréquents dans la tradition arabo-musulmane. C'est absolument quelque chose dont les musulmans devraient se libérer. Bon, ça c'est un point. Alors, ce refus arabe a été très très important et d'abord il existe sur le plan diplomatico-politique puisque les plans de partage ont tous été refusés et à partir du moment où a été envisagé la solution à deux États. En vérité, les instances palestiniennes, Arafat, qui l'ont co-signé, ont fait savoir que c'était plutôt une ruse transitoire pour avancer quelque chose. Avancer vers quoi? Bon, c'est le projet du fleuve à la mer. Hein, il n'y a pas de mystère. Bien. Ouais. Et ça, cette conception-là, elle est parfaitement évidente pour les populations palestiniennes. Qu'une partie suive, que les autres adhèrent activement ou simplement se font salariés parce qu'elles reçoivent un dépôt d'armes chez eux, ou un otage. Après le 7 octobre, des otages ont été retenus dans des domiciles de particuliers qui étaient payés par le Hamas, bien. Ou dans les hôpitaux, d'ailleurs, où ils étaient téléguidés aussi, les 10 otages, voilà. Et ce refus arabe, il s'est enraciné de manière jusqu'à maintenant irréversible, comme une espèce de code du nationalisme pan-arabe en déliquescence, c'est-à-dire incapable de s'unifier et en proie à des foules de concurrence et de jalousie interne et aux manipulations des Occidentaux. Évidemment. Alors ça commence avec l'époque mandataire entre les deux guerres mondiales et les dominations de la surdomination de la France et de la Grande-Bretagne. Bien. Et la création vraiment ex nihilo d'États arabes, enfin Jordanie et puis Arabie Saoudite entre autres, qui n'existaient pas. C'était des terres qui dépendaient des terres de passage pour beaucoup, beaucoup peuplées de populations nomades. Hein, les Bédouins, c'était des nomades jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et bon, c'était des tribus qui passaient en partie élevage, qui vivaient en partie de l'élevage et en partie des razzias et en partie du commerce. Et les razzias, c'était des pillages systématiques dont on retrouve une partie de l'idée dans le pogrom du 7 octobre. Bien. Cette création ex nihilo occidentale pour beaucoup d'États arabes nationalistes, mais en même temps incapables de donner corps, structure à une idéologie pan-arabe, entre guillemets, cette contradiction a fait que les régimes, d'abord hyper autoritaires, focalisé leur structuration idéologique sur le refus d'Israël et la prétendue défense de la Palestine. Et c'est là où je rejoins ce que tu évoquais, c'est-à-dire que les populations ont été cantonnées de façon à garder toujours un moyen de pression vis-à-vis d'Israël, une sorte de prétexte extérieur, et vis-à-vis de l'Occident, où là, il y a eu tout un deal, même la création d'Israël, à la limite, participe de ce deal. On donne aux Juifs un petit État morcelé, séparé, puisque le plan initial, c'était Gaza et Cisjordanie réunis par une route en plein milieu du dit territoire israélien. Ça, c'est le plan. Voilà. Et ces aberrations territoriales, c'était le calcul, le fruit du calcul entre Occident et État arabo-pétrolier. Hein, voilà. Alors évidemment, les Occidentaux ont dit on ne va pas, à propos de la création d'Israël, se mettre à dos 40 millions d'Arabes à l'époque. Voilà. Il y aurait d'ailleurs quelque chose à propos de l'histoire de la marche occidentale du Proche-Orient, c'est-à-dire les territoires actuels d'Israël et puis de Gaza, où là non plus, il n'y avait pas d'État. C'était des régions qui dépendaient aux lignes assez souvent changeantes, qui dépendaient de l'Empire ottoman et qui ont été séparées par l'influence occidentale et la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. Et à la Grande-Bretagne, ce qui s'est de nouveau appelé Palestine, ce qui ne s'appelait plus Palestine depuis les croisades. Hein. Et la population était vraiment seconde moitié du 19e siècle, peut-être 350 000, 400 000 personnes. C'est-à-dire vraiment très très peu peuplée. Et c'était une terre de transit, d'exil ou de migration. Et pas seulement des juifs d'Europe ou des juifs chassés dans les pays arabo-musulmans, mais aussi d'Arméniens, de populations des pays des Balkans et d'Iran, du fait des contraintes, lutte entre empire russe, austro-hongrois et ottoman. Voilà. Et ce qui fait que quand on dit maintenant statistiquement, regardez, il y avait 10% de juifs par rapport à la population d'ensemble, et donc en théorie donc on se dit 90% d'arabes. Oh mince, les pauvres arabes. Mais non, c'était, alors ils ont été progressivement unifiés par le fait qu'ils étaient musulmans, mais n'étaient pas depuis des siècles palestiniens, si on peut dire. Ça n'en faisait pas des gens pires, hein, il ne faut pas croire. Voilà. Et de ce fait, il y a une création de la notion de palestinien, du peuple palestinien. Enfin, à un moment, je détourne le titre d'un historien israélien à propos de comment a été créé le peuple juif. Je le détourne inversement, comment a été inventé le peuple palestinien. Et on voit, on trouve encore des témoignages de Palestiniens, entre guillemets, actuels de Cisjordanie ou en Jordanie, qui disent oui, auparavant on était Jordaniens, puis tout à coup on nous a dit qu'on était Palestiniens. Et ça date des années 50-60. Et donc il y a une construction à cet égard, absolument orchestrée internationalement par les États arabo-musulmans, puis qui coincent, qui font pression vis-à-vis des pays occidentaux à cet égard. Voilà. Et alors c'est un moyen de chantage, et le chantage va loin puisque ça donne aussi des attentats qui peuvent être vraiment redoutables, hein, et très équipés maintenant. Alors, et c'est un chantage qui va aussi sur le plan financier, puisque, par exemple, je pense qu'une revendication qui rendrait service aussi à la base de la société, des sociétés palestiniennes, entre guillemets, ce serait que cessent tous les financements de l'ONU, des États-Unis, quoi qu'on en dise, qui cofinancent de façon importante aussi, et de l'Europe, sans parler évidemment des États arabes qui cotisent largement, c'est-à-dire qui entretiennent ce point de fixation. Voilà.
Bon, alors, c'est un peu contextualiser comme ça, ce serait difficile d'imaginer qu'il y a une solution dans ce contexte-là, parce que tout part sur des bases qui sont déjà faussées, hein, qui sont pas celles qui sont de la réalité, hein, ne serait-ce que la création de l'État d'Israël avec une population juive qui serait très très importante, alors que mais les Juifs, il y en a eu de tout temps sur ce territoire-là, mais comme des musulmans. Et donc, moi personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une autre solution que celle de revenir à une gestion de population laïque, c'est-à-dire qui permette à toutes les religions de s'exprimer pour peu qu'il y en ait. Mais on en est loin.
Oui, alors, je crois que moi, je crois que la question n'est pas religieuse. D'abord, pendant longtemps, Israël a été principalement laïque. Et d'autre part, qu'il y ait une instrumentalisation d'inspiration religieuse du côté des islamistes, c'est un peu une mise en avant, mais ce n'est pas, c'est pas le principal. Le principal est un racisme antisémite, anti-judaïque, simple. Voilà. Alors, après, maintenant, quand on dit, pendant longtemps, on a avancé, et on y revient encore officiellement, les États, les diplomaties occidentales, etc., la solution à deux États. Alors, maintenant, deux États dont l'un veut en permanence, parce qu'à la limite, on peut presque dire que l'État palestinien existe, le Hezbollah et le Hamas, ce sont des États palestiniens. Eh bien, dans la mesure où clairement ils veulent détruire l'État israélien, je ne vois pas comment tu peux les faire voisiner. Et maintenant, si en permanence ce sont roquettes, missiles, et tutti quanti, des centaines, des milliers, je ne vois pas comment tu peux vivre en te disant tu vis avec tes voisins. Voilà. Ça, c'est du point de vue de la population israélienne, c'est très important. Ensuite, je pense que non seulement si on regarde le passé, c'est problématique et recouvert par des simplifications falsificatrices, mais si on regarde le présent, eh bien ça continue, c'est-à-dire les États arabo-pétroliers et les États-Unis et l'Europe continuent de tracter sous main, c'est évident, pour essayer de délimiter, c'est-à-dire il faut bien qu'Israël se défende, mais il faut qu'elle arrête, qu'elle ne s'obstine pas, etc., qu'il ne s'obstine pas, etc. Et en même temps, on laisse les États qui financent Hamas et Hezbollah, on les laisse tranquilles. On dit bien du mal de l'Iran, mais le Qatar, on n'en dit rien. Mais le Qatar, c'était des sommes colossales versées mensuellement au Hamas depuis 2017-2018. Et à cet égard, on a moqué les Israéliens qui acceptaient de faire transiter les valises de billets, cash, alors que c'était dans l'hypothèse que du coup une sorte de stabilité s'instaurerait et que le Gaza survivrait à peu près et donc ça se tiendrait tranquille vis-à-vis d'Israël. Bon, l'aide a été largement servi à faire les tunnels, les équipements militaires, les munitions à non plus finir, etc., etc. Et évidemment à entretenir les armées, les milices, le petit personnel du Hamas, et puis les prébendes au titre de la protection sociale, etc. Donc à servir sa popularité par rapport aux Gazaouis. Voilà.
Ouais, ça va être difficile quand même de parce que moi voilà je vois ça moi de ma propre analyse hein. C'est à dire que est-ce que l'erreur ça n'a pas été de créer l'État d'Israël sans que ça soit accepté sans voilà parce qu'on voilà, ça a été imposé finalement à un moment où tous les pays arabes étaient contre.
Absolument contre, ouais. Oui.
Et du coup, le verre était enfoui dès le début. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dès qu'il y a eu la création de l'État d'Israël, tous les pays arabes, je veux dire, ils ont fait la guerre. Par exemple, le Hamas et le Hezbollah avaient les moyens d'éradiquer Israël n'existerait plus. C'est-à-dire que c'est donc du coup, les Israéliens sont fondés à pouvoir dire
Comme toute communauté, sans même parler d'État, comme toute communauté qui subirait ce qu'Israël subit. Par exemple, après le 7 octobre, l'État israélien envisageait surtout d'attaquer le Hezbollah au Liban Sud, sans doute en pensant et en considérant, je ne peux pas dire si c'était tout à fait à juste titre, etc., que la source venait de là et que là était le grand risque, le grand danger. Et ce sont les États-Unis qui l'ont dissuadé, a-t-on dit, par crainte. Ça, c'est bien à l'image. Ouais, oui, ouais. Par crainte d'un, entre guillemets, d'un embrasement général. Et là, on voit bien ce type de négociations en sous-main, pression, etc. Oui, je vous arme, mais d'ailleurs, on finance les vos ennemis aussi. Et puis, en même temps, on fait en sorte que vous ne puissiez pas trop tirer profit de vos armes, en fait. Voilà. Bon, ça peut marcher le commerce. Hein. Donc, il y a eu cela. Mais, attends, je perds un fil. Donc là, depuis que le Hezbollah est de nouveau attaqué, on... excusez-moi, je perds un fil, soyons francs. Voilà, si tu vois une autre question.
Oui, non mais bon, moi j'essaie de revenir un petit peu à... comment il faudrait s'y prendre pour que moi je le sais, c'est-à-dire pour moi la religion n'étant pas quelque chose qui fonde à pouvoir être l'unité d'une nation, ou je sais pas, même le terme de nation pour moi c'est moi je suis contre les frontières, donc je veux dire le problème c'est bien ça, c'est le problème pour moi c'est le pouvoir. Tu donnes le pouvoir à quelqu'un et je veux dire il s'en sert. Donc là on est confronté à deux États, parce que je suis assez d'accord avec toi pour dire que bon bah le Hamas c'est un État, je veux dire c'est un État dans l'État, avec la vertu de pouvoir passer pour des résistants, et de l'autre côté tu as l'extrême droite israélienne qui profite de cette situation pour porter un projet qui est pas dit d'ailleurs dans les médias, on entend si tu lis la presse spécialisée, mais sinon de dire par exemple du Jourdain à la mer, le grand Israël, c'est quand même le projet des intégristes juifs. Et ça pose problème quand même, parce que là, on a deux positions sur un même territoire.
Qui sont en guerre.
Et en plus, c'est la guerre le problème, parce qu'ils ne pourront pas argumenter contre argument. Là, c'est on essaie de détruire l'autre. La seule solution, c'est de détruire l'autre, quoi, comme alternative. Et bon, c'est pas entendable pour des gens comme moi qui sont anarchistes et qui sont contre la guerre et qui ne prônent pas en plus les religions comme quelque chose qui doivent être d'importance. Ça relève pour moi du choix individuel. Les gens, ils croient à ce qu'ils veulent. Les enfants croient au Père Noël. Les adultes, ils croient en un Dieu, etc. Bon, je veux dire, chacun, pour moi, je mets un peu d'humour parce que le sujet, mais voilà, la réalité, c'est qu'il y a quand même des populations qui prennent des bombes sous la gueule par un État qui les justifie par le fait que dans la charte du Hamas, c'est l'éradication, c'est la destruction totale d'Israël. Voilà, je vois mal comment en coupant le robinet des armes, etc., mais il y aura toujours des pays qui en sous-main.
Actuellement, bien sûr, ça se renforce et ça agit beaucoup. Je pense que la première position, une hypothèse de perspective, c'est de désamorcer tout ce qui soutient l'insoluble conflit et tout ce qu'il soutient, y compris ici. d'une part, d'autre part, effectivement, protester contre, si l'on veut, contre le, les soutiens structurels internationaux dont bénéficient Hamas, Hezbollah, etc., au titre des réfugiés palestiniens. Bon, par exemple, il y a cette parenthèse que les réfugiés palestiniens, bon, c'était leur arrière-arrière-grand-père, hein, qui sont partis en 47-48, hein, c'est pas eux. Ouais. Bon, et à ce moment-là, moi-même, je suis réfugié, et très certainement, je ne sais combien de... quelle proportion de population de tous les pays sont des réfugiés. Bien, c'est tout à fait entretenu, cela. Alors, maintenant, il y a une contradiction entre, si on veut, effectivement, alors, quand on revendique la création d'un État palestinien, on continue en plein dedans. Bon, Israël a dû se créer comme État dans un monde où les États se créaient et c'était visiblement une condition de survie pour des populations déterminées et chassées de partout, d'une part. Et évidemment, c'est un État. Bon, donc, c'est un État comme les autres. Voilà. Ensuite, bon, il domine, selon les mouvements, les moments, il le met. Commencé comme laïc, c'est vrai qu'il a connu, du fait des tensions permanentes avec les communautés palestiniennes, et une certaine systématisation et de nouveau réévocation du Grand Israël, de la religion orthodoxe, etc. Ça c'est vrai, c'est une partie de la population, et bon... Il y a une tendance à l'expansion en Cisjordanie, c'est évident. Dans un autre sens, il y a une tendance à en permanence attaquer, terroriser, etc., les populations. Et ce qui fait que ce sont des accrochages qui impliquent, d'une part, la militarisation sournoise, souterraine, en Cisjordanie, et d'autre part, tout un système sécuritaire très, très lourd. Alors, si on isole un des éléments, évidemment, ah, quelle horreur, Israël, apartheid. Bon, l'apartheid, c'était quand même autre chose et ça portait sur la société productrice dans son ensemble. Ça, là, les Cisjordaniens, ils produisent rien pour Israël. Et ils ne sont pas producteurs. Voilà, ils ne sont pas la base productrice de la société israélienne. Et ça fait une différence fondamentale. Ensuite, il y a eu un risque sécuritaire évident pour les communautés juives qui s'installent, et avec des morts assez fréquemment, et des attentats suicides ou aléatoires, etc. Et de sorte que ça conduit au renforcement militaro-policier et, d'autre part, à la fuite en avant, si on veut, de l'idéologie ultranationaliste, avec tout un tas de représentations anti-palestiniennes, anti-arabes, entre guillemets. Cependant, pour la société israélienne, parler d'arabes ou de palestiniens n'est pas une... comment dire... marque pas, comme en France, par exemple, l'extrême droite, les arabes, etc. C'est pas... raciste dans ce sens-là, c'est ségrationniste, ça implique une séparation, oui, mais c'est pas raciste, c'est que c'est les populations musulmanes elles-mêmes se sont définies comme arabes, ce qu'elles n'étaient pas pour très grande part, et l'islamité a semblé signifier leur arabité, et celle-ci est devenue le code. Donc oui, on est des arabes, donc c'est un conflit, par exemple, judéo arabe. En fait, si on regarde l'histoire ethnique des communautés concernées, ben, y a sûrement assez peu d'arabes. De musulmans, oui, mais pas d'arabes. Beaucoup moins d'arabes. Voilà. Et d'ailleurs, par parenthèse, c'est le même processus au Maghreb. Hein, 40% sont berbères, ils ne sont pas arabes. Et il y a l'islamisation, se traduit par une arabisation, entre guillemets, dont bénéficient les régimes arabo-musulmans en disant nous, qu'est-ce qu'on est beaucoup d'arabes.
Ouais. Bon, tout ça, bon, après, alors, comment...
Ce sont des peuples en guerre, on peut... Ouais. Nous, on peut Je ne vois pas comment on pourrait préconiser une solution. Voilà. Maintenant, préconiser la contestation des pouvoirs qui engluent, qui conduisent à l'autodestruction. Voilà, concernant le Hamas et le Hezbollah, c'est parfaitement clair. Favoriser la contestation de ces régimes, déjà par les idées que nous, on peut essayer de communiquer ici, ça me semblerait, le premier geste possible. C'est tout humble, si on veut. Ouais. Maintenant, combien sont tonitruants tout ce qui englue et enferme sur ce plan-là, c'est un peu monstrueux actuellement.
Mais en même temps, dans l'actualité, les problèmes de... Enfin, la situation ne nous est pas posée comme ça. Ce qu'on entend, c'est l'État israélien colonise la Cisjordanie, grignote, impose des... Et du coup, effectivement, à chaque fois, c'est encore des populations non-juives qui sont obligées de partir. Ah bon? Et du coup, de l'autre côté, c'est pareil. On essaie de nous demander de justifier des horreurs au nom d'une résistance d'un peuple qui se fait massacrer. Alors moi, je suis assez d'accord pour dire que c'est plus une guerre qu'un génocide. Hein, parce que un génocide, ça a quand même un sens. Tu as une volonté d'exterminer une population entière. Là, c'est une guerre. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça ne lui donne pas plus de respectabilité que...
C'est tragique.
Maintenant,
elle a des formes spécifiques, c'est pas pour la défendre, mais pour inviter à essayer de la comprendre, il faut essayer d'y réfléchir. Puisque, par exemple, là, c'est très net ces derniers jours entre Israël, enfin entre Tzahal et Hezbollah, les attaques, c'est vraiment par bombardement à distance ciblée avec tous les équipements satellitaires de repérage, etc. etc. On n'est plus du tout dans deux armées face à face qui sont bien éloignées des populations civiles. Les femmes et les enfants, on n'y touche surtout pas. Et puis, on essaie de s'étriper et c'est celui qui triple toute l'armée adverse qui gagne. C'est complètement différent, et ça, malheureusement, ce sont les guerres modernes. Ça se voyait d'ailleurs, ça se voit encore aussi entre Russie et Ukraine. C'est des bombardements à distance qui frappent pas tout à fait tous sans distinction, puisqu'il y a des ciblages. Même le Hamas d'ailleurs et Hezbollah se sont mis à cibler, c'est-à-dire ils essaient d'atteindre telle ou telle structure militaire ou satellite d'Israël. Bien. Ça oblige à comprendre la guerre différemment. Qu'elle est là, une fois qu'on a basculé dans la guerre, c'est difficile d'entonner les raisons de l'armée qui a été agressée, qui a été agressante, qui a mené l'offensive. Une opération vraiment atypique aussi.
Ça fait que toutes ces guerres modernes sont de fait des guerres civiles, puisque ce qu'avant on entendait, c'était la différence entre armée contre armée et le peuple à côté, une armée qui est complètement dans le peuple ou qui est considérée comme le peuple lui-même s'est imposé. Donc là, on est dans ce genre de conflits ou qu'on peut appeler des guerres civiles, puisque des populations civiles sont complètement impliquées, qu'elles le veuillent ou non, d'ailleurs.
Alors, auparavant, quand on parlait de guerre civile, ça entendait que les populations, elles, voulaient se faire la guerre. Par exemple, on en a parlé pour la Yougoslavie, puis c'est arrivé dans l'histoire maintes fois. Mais là, en l'occurrence, il est certain que même les bases sociales gazaouies et cisjordaniennes ne désapprouvent pas du tout le fait de guerroyer Israël. Ça c'est sûr. Cependant, la façon dont les populations civiles à Gaza notamment sont embarquées dans la structure militaire du Hamas est tout à fait involontaire. Je pense que la population gazaoui le subit complètement, c'est-à-dire qu'elle est bien obligée. D'abord, il y a un contrôle policier et idéologique considérable et sûrement pas mal de liquidations qui se font au motif de du soupçon de trahison. Évidemment, les gens qui accueillent chez eux un milicien ou un dépôt d'armes ou un otage sont stipendiés, mais en même temps, refuseraient-ils, ils n'iraient sans doute pas bien loin. Ouais. Il y a toute une situation dont on ne se rend pas compte, mais une pression totalitaire considérable. Peut-être, je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à... Si jamais
il reste, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour poser une question, nos problèmes, hein, vous faites hop, et puis sinon, voilà, il y a peut-être...
Alors, je vais vous demander de venir chercher le micro, s'il vous plaît. Non, non, non. Ça passe en direct sur Radio Libertaire 89.4, ouais. La radio de la Fédération anarchiste.
Oui, Jean-Michel. Pourquoi les accords l'accord de la Cisjordanie se mettent pas en pratique? Qu'est-ce qui empêche, simplement le fait que les Palestiniens disent on veut pas d'Israël? Les accords qui ont été décidés à l'ONU, pourquoi ils ne se mettent pas de 67, c'est ça, hein?
Il y a eu à la fin du XXe siècle les accords d'Oslo. Ouais. Alors pourquoi ils veulent pas
qu'est-ce qu'ils ne veulent pas?
Les deux parties. Hein. On a dit, on accuse beaucoup Netanyahou, bon, parce qu'il est de droite, voire extrême droite, mais il n'est pas tout seul. Il a une société qui en partie l'approuve pour des raisons précises, et pas seulement par idéologie telle que c'est présenté en Occident. On a beaucoup dit, donc Netanyahou ne voulait pas, n'a pas soutenu, etc., a voulu affaiblir l'autorité palestinienne. Bon, je pense qu'elle s'est affaiblie toute seule, en partie par sa corruption, par son usure, et en partie parce qu'elle contractait avec Israël et renonçait au moins en apparence à la guerre. Et ça a sûrement beaucoup joué. Alors ensuite, il y a l'usure du pouvoir, le côté bureaucratique, clanique, avec les corruptions et tout y quanti. Ce sont des régimes qui sont à la fois totalitaires et toujours impopulaires au nom de repopulariser des variantes, c'est-à-dire ça a été le Hamas et le Hezbollah, qui, eux, oui, voulaient explicitement la guerre et sont redevenus populaires. Et bon, comment à Gaza, le Hamas a supplanté l'autorité palestinienne, ça a été à la mitraillette, hein. Bon. Et à partir de ce moment-là, comment Israël, me semble-t-il, pouvait considérer qu'il y avait une partie prenante à des accords potentiels? Je pense qu'ils se sont dit non, ça n'est pas réaliste, et donc ils n'ont rien fait pour renforcer. Ça, c'est vrai. Mais je ne dirais pas, comme dit Le Monde, par exemple, que le journal Le Monde, que Netanyahou a tout fait pour affaiblir, et du coup, enfin d'ailleurs, beaucoup de commentateurs, de diplomates, etc., disent cela aussi. Je pense que la question est plus profonde.
C'est complexe, hein.
Oui, enfin, je pense que quand on prend on viendrait prendre votre terrain, ça pose question, quoi, hein. Israël, je veux dire, il y avait des accords. Comment ça se fait que la communauté internationale n'a pas
Mais c'est la communauté internationale qui a décidé.
C'est les Palestiniens qui veulent la guerre, quoi. C'est ça.
Excusez-moi, mais moi j'avoue, je suis gêné par l'appui. C'est peut-être mon côté un peu libertaire, mais je suis gêné par l'appui, l'attente qu'on a vis-à-vis des solutions des autorités internationales. Parce que, qu'est-ce que c'est l'ONU? Qu'est-ce que c'est tous ces conclaves de grands chefs d'État et de grands diplomates? Ce sont des structures étatiques mondialisées Hein, au-delà des gouvernements contre lesquels on manifeste de temps en temps, bon, mais qui gouvernent le monde entier, et avec tous leurs calculs. Alors vous pensez que ça marionnettise un peu en plein d'endroits. Et alors là, le Proche-Orient, c'est le cirque marionnettisé, vraiment effet garanti. Tout le monde manifeste quand tout à coup il arrive quelque chose.
Ouais. Oui, les armes sont bien vendues par la communauté internationale, quoi. Hein. Ouais. Les armes sont bien vendues par la communauté internationale.
Ça va ensemble.
Donc il y a moyen, enfin je sais pas. Les armes, c'est aussi le capital, quoi. Hein. Oui. Donc
non mais certes.
D'ailleurs, ils vendent aux deux côtés.
C'est, hein. La guerre, c'est des peuples qui, c'est des individus qui s'enrichissent, quoi. La guerre, c'est profitable.
Oui, des sociétés maintenant, souvent des sociétés privées, y compris les milices, etc. Mais le Hamas et le Hezbollah en particulier, jusqu'à il y a très peu, se sont colossalement enrichis par leur domination sur leur base sociale et par toutes les prébendes du fait qu'elles étaient que ces forces étaient l'espoir de la cause, entre guillemets, la sacro-sainte cause. Et donc, je pensais que justement les facteurs internationaux, multi-étatiques de tous ces drames enchevêtrés, accumulés, chronicisés, peuvent sortir de leur chapeau une solution en disant « Ah tiens, on va refaire le coup des deux États ». Bon, ça, là, il faut... il faut plus en attendre. Alors ensuite, tout ce qui est maintenant dénonciation idéologique des abus d'un côté, hein, les abus d'Israël, est aussi très falsificateur sur ce plan-là, puisque ça permet, on élude les atrocités du Hamas et du Hezbollah. Et la structure, la nature de ces pouvoirs, qui est vraiment abominable, et théocratique, etc. Et on donne caution aux États arabo-musulmans, qui, parce que c'est le pétrole, parce qu'ils achètent des armes à non plus finir, pour leur future guerre, etc. Bon, c'est ça qui manipule et qui fait durer. Alors, qui a fait durer jusqu'à maintenant, c'est sûr que déjà n'en rien attendre et le dénoncer me semble aussi un geste qui est à notre portée et qui pourrait aider à démythifier.
Et pourtant, quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, c'est qu'on s'étripe, y compris ici, sur le fait de dénoncer la politique colonialiste d'Israël et puis sur les atrocités de ce qu'ils appellent la résistance palestinienne. Et du coup, voilà, tout nous, on est quasiment dans une situation où on réagit affectivement, j'allais dire, enfin émotionnellement plutôt. Hein? Alors que bon, on est dans une situation inextricable du capitalisme international. Le Moyen-Orient, c'est le lieu d'expérimentation de toutes les dernières armes. Hein, et il y a du profit qui se réalise là-dessus. Et tant qu'il y aura du profit qui se réalisera sur des conflits où des gens sont tués, bon voilà, mais il faut revenir peut-être à la source. C'est le capitalisme qu'il faut détruire. Là, pour le coup, s'il faut détruire quelqu'un ou quelque chose. Enfin, parce que tant qu'on sera dans un pays capitaliste, ben, des gens chercheront à prendre le pouvoir. Et puis, quand tu as le pouvoir, et ben, qui est-ce qui le gère? Et ben, ce sont les gens qui ont les moyens. Moi, tu vois, même quand je vois ça, si j'étais pas anarchiste, ben, je le deviendrais.
Mais bon, toutes les bases sont pauvres. Hein.
Toutes les bases sont
pauvres, hein, que ce soit chez nous ou chez eux, quoi. Hein. Donc, dire qu'ils sont enrichis avec leur base, la base, elle n'a rien, quoi, aujourd'hui. Hein.
Oui, ben, c'est en la contenant, alors, c'est en la dominant, en la délimitant et en même temps en la surexploitant politiquement pour, dans une seule direction, servir à la cause et aux offensives. Maintenant, quoi qu'on pense, il me semble, faudrait presque distinguer cela, quoi qu'on pense de la politique d'Israël, en disant tatata, bon, les modalités de lutte et d'organisation du Hamas sont rien, vraiment pas libertaires. Et il me semble que ceci devrait être absolument critiqué, et quoi qu'on pense par ailleurs. Et ça me semble primordial, car on encourage sinon l'élision, l'hypocrisie à cet égard, voire l'approbation en se disant oui, la guerre sociale, la révolution, la cause, la résistance, etc., ça peut être ça. Alors là, je suis désolé. D'abord, on tend des bâtons pour se faire battre à tous égards, de toute façon, en dehors de cet aspect qui pourrait être considéré comme tactique, en dehors de ça, mais c'est d'une immoralité monstrueuse, monstrueuse. Ce serait quasiment mon dernier mot, je ne sais pas.
Oui, moi qui ai une autre question, il nous reste 5 minutes. Voilà, il y a une question là.
Donc, si je vous ai bien compris, la solution à deux États qui était prônée par des gens comme Elie Barnavi, etc., C'est sans espoir. Enfin, ça ne tenait pas la route.
Alors, écoutez,
il y a peu d'espoir qu'un jour ça puisse se réaliser.
En ce qui me concerne, elle est morte. Mais c'est une appréciation personnelle. Donc, comme je ne suis pas grand stratège, je pense. Elie Barnavi est un historien et politique très intéressant et lucide. Il participe d'une certaine opposition au régime actuel, et ce qui est tout à son honneur. Cependant, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas tendance à soit s'illusionner lui-même, soit essayer de trouver le système qui pourrait permettre de concilier. Et ça renvoie à la question que, de l'autre côté, on ne veut pas se concilier. C'est une appréciation personnelle. Alors, peut-être, on pourrait espérer que la population Gazaoui et cisjordanienne en particulier se libère du Hamas, se libère du Hezbollah, évidemment elles seules peuvent le faire, hein, il n'y a pas de sauveur suprême. Bien, mais à ce moment-là, éventuellement, les communautés pourraient se considérer différemment, pourraient repartir des bases sociales. Qu'est-ce qu'elles font et comment elles évoluent, il me semble. Et pour l'instant, c'est complètement fermé, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas la guerre. Voilà. Là, c'est une question. Le seul espoir serait que se décomposent ces pouvoirs islamistes, technocratiques, bureaucratiques, militaristes, etc. Donc, qu'on ne les soutienne pas internationalement. Voilà. Ce serait bien.
Mais bon, c'est vrai que pour nous, c'est difficile de vivre ces choses-là. On n'est pas sous les bombes, mais c'est un peu comme si on y était idéologiquement. Parce que moi, que ce soit Israël qui bombarde des populations palestiniennes, parce que au sein des populations palestiniennes, on les a quasiment obligés à participer à la résistance. Alors, pas tous, hein, y en a qui sont tout à fait d'accord pour ce genre de méthode de lutte. Et de l'autre côté, Israël qui est dans une position où, de toute façon, les organisations politiques qui combattent Israël ont dans leur fondement politique la destruction et la suppression totale d'Israël. Alors, après ce qu'ils ont vécu historiquement avec la Shoah, etc., c'est vrai qu'on est dans un truc, nous, c'est pour ça que je dis qu'on réagit émotionnellement tout le temps, mais bon, c'est déjà bien de réagir, je trouve, hein, face à l'ignoble, mais bon, il n'en reste pas moins que les massacres palestiniens du 7 octobre et les bombardements de israéliens sur Gaza, pour moi, ce sont des gens qui meurent. Hein, ce sont des gens qui, on vient pas sur terre pour se faire crever la peau, et que ça soit de droite ou de gauche, quand tu prends une balle dans le coffre, je veux te dire, c'est quelque part, c'est un peu la même chose, quoi. Et voilà, bon, c'est un peu triste de terminer comme ça, mais la situation politique actuelle fait que ça nous est bien difficile, de ne pas prendre position, alors que si tu prends position pour l'un ou pour l'autre, alors que les deux sont dans l'ignoble, hein, quelque part, et donc on essaie d'en trouver un qui est plus, un parti qui est plus, bon, alors comme nous, on est plutôt anticolonialiste, on aurait tendance à dire, ben voilà, il y a un peuple qui veut se libérer, c'est les Palestiniens, et les Israéliens sont, ben d'un autre côté, si on imagine que l'on donne tout le pouvoir aux Palestiniens et qu'ils anéantissent Israël et qu'on recommence un peu là pour le coup ce qui serait un génocide, hein, parce que leurs chartes sont claires, hein, on élimine tout le monde. Hein,
mais sur le plan, le plan pédagogique, scolaire, etc., il y a l'éloge de l'assassinat du juif. Hein, et malheureusement, cette espèce de vieillerie dogmatique de certaines tendances musulmanes est réactivée maintenant chez les hyper-islamistes. Et bon, sur ce plan-là, il y a quand même un certain travestissement de l'appréhension à travers l'ONU qui finance les écoles à Gaza, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est humanitaire, et puis qui embauche des Palestiniens. Le personnel de l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, entre guillemets, est essentiellement palestinien. Donc il est épuisé. Alors il y a un encadrement occidental, hein, c'est un peu colonialiste.
Non, aussi,
il y a un encadrement occidental et le personnel est palestinien. Il est épuisé parmi les différentes tendances et communautés des Gazaouis et des Cisjordaniens, c'est normal. Et donc vous avez forcément des infiltrations, une imprégnation idéologique de ce qui domine, et ce qui domine, c'est un anti-israélisme systématique et l'enseignement du Coran orienté dans cette perspective-là, et de sorte que les enfants sont d'ores et déjà conditionnés et préparés à ce que leur promet la charte du Hamas, et qui est de servir comme bons guerriers de la cause. Hein. On peut dire qu'ils sont condamnés à mort dès l'enfance. Bien. Et il y a un aspect aussi, c'est le fait que les miliciens soient planqués en permanence parmi les civils, c'est ça qu'il faudrait condamner en premier, parce que on réfléchit du point de vue en disant Israël avec tous ses moyens tire, d'abord de l'autre côté il y a beaucoup de moyens aussi, tire sur les immeubles habités par des civils aussi, ça c'est vrai, et rien n'est atroce comme de montrer, et malheureusement c'est aussi surexploité, ce qui implique un cynisme quelque part, de montrer ces enfants blessés, ces mères éplorées, etc. Bien sûr, mais comment on peut ne pas dénoncer d'abord les miliciens professionnels du Hamas qui se mettent derrière, au milieu, et puis quand ils vont à l'hôpital, se mettent à l'hôpital, quand ils vont dans un campement de déplacés, se mettent dans le campement de déplacés, etc. etc. Et de l'autre côté, on peut... À titre individuel, on peut imaginer, mettons, essayons d'imaginer, je suis en face de quelqu'un, c'est lui ou moi, est-ce qu'on tire ? C'est le grand problème des pacifistes. Hein. Et en l'occurrence, bon, que peuvent penser des soldats, d'abord qui sont des soldats civils, qui ne sont pas des soldats professionnels, des militaires de métier israéliens, en disant si je tire ça, je vais aussi tuer des femmes et des enfants. Et je pense que pour en arriver à pouvoir le faire, moralement, il faut voir ce qu'a été le 7 octobre, je dirais. Et alors maintenant, historiquement, des occurrences des types de razzias ou pogromistes, c'est tout au long du XXe siècle, il y en a eu pas mal, et bien avant la création d'Israël. Et de ce fait, comment l'humain pour défendre l'humain devient inhumain, c'est un drame qui est particulièrement clair là, mais qui est partout.
Voilà, ben je crois qu'on va terminer sur cette analyse-là, puisque bon, on est contre le pouvoir, mais on est pour l'organisation et qu'il y a des débats qui s'enchaînent. Alors je tiens à dire qu'on a abordé une petite partie avec Jean-Louis Morand-Paul, auteur de ce livre qui s'appelle Le banc des nations, et c'est sur la malédiction d'Israël. Donc on peut trouver ce livre sur le stand de Ressouvenance, qui est sous le chapiteau, mais aussi sur la table de presse du groupe Kropotkine, qui est une excellente table de presse, n'est-ce pas ?
Et voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller. Je vous remercie. Voilà.
Donc, je remercie Jean-Louis d'avoir accepté de participer à ce débat.
Voilà. Merci à vous.
Et on va passer peut-être à une petite intermède. Voilà. Bon, santé.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte ? Gaza bombardé, massacré, enfants ciblés, mères en pleurs, de mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesse. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, à lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonnes, qui penses, et n'as avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbin sans conscience ni cœur, vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine ? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, à lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris, le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier? La lâcheté et le déshonneur.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes en direct du Salon du Livre anarchiste de Merlieu. Un débat s'est terminé juste avant la pause musicale que nous venons d'écouter, qui était Gaza 2014, Michel Buller. Nous allons remettre un petit disque, alors là ça va être une interprétation de Raymond Gary, des Oiseaux de Passage, et tout de suite après ou un petit peu après, le troisième débat de la journée. Ne quittez pas l'antenne.
C'est une cour carrée et qui n'a rien d'étrange. Sur les flancs, l'écurie et l'étable au toit bas. Ici près, la maison, là-bas au fond, la grange, sous son chapeau de chaume et sa jupe en plâtras. Le bac où les chevaux au retour viendront boire dans sa berge de bois est immobile et d'or. Tout plaqué de soleil, le purin à l'eau noire, lui, le long du fumier gras, est pailleté d'or. Loin de l'endroit humide où gît la couche grasse, au milieu de la cour, où le crottin plus sec, riche de grains d'avoine en poussière, s'entasse, la poule l'éparpille à coups d'ongles et de bec. Plus haut, entre les deux brancards d'une charrette, un gros coq, satisfait, gavé d'aise, assoupi, hérissé, l'œil mi-clos recouvert par la crête, ainsi qu'une couveuse en boule est accroupie. Des canards hébétés voguent l'œil en extase, on dirait des rêveurs. Quand soudain, s'arrêtant pour chercher leur pâture au plus vert de la vase, ils crèvent d'un plongeon les moires de l'étang. Sur le faîte du toit dont les grises ardoises montrent dans le soleil leurs écailles d'argent, des pigeons violets, aux reflets de turquoise, de roucoulements sourds gonflent leur col changeant. Leur ventre, bien lustré, dont la plume est plus sombre, fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail. Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent, sur du velours, des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, où vont paître les oies, et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs, vos joies, rentiers, faiseurs de lard, philistins, épiciers. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Son devoir, c'est-à-dire, elle blâmait les choses inutiles, car elle était d'esprit zélé. Et quand des papillons s'attardaient sur des roses, elle cassait la fleur et mangeait les trellés. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle nue de souhait impossible, elle nue. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit, comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous ont ainsi fait, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Aussi comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés, 5%, quel bonheur de dormir dans la crasse, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disant « Oh les gens bienheureux !» Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, d'un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol, les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et saute dans le vide avec une culbute. Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête. Le coq droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête. Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident. Qu'est-ce que vous avez, bourgeois, soyez donc calmes. Pourquoi les appeler, sauf ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre la chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, là, harassés, qu'importe. Là-haut chante pour eux un mystère profond, à l'haleine du vent inconnu qui les porte. Ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes, ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage, l'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace. Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leurs carcasses et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu par-delà les sommets. C'est le bleu paradis. C'est la lointaine grève où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Eh bien, c'était Raymond Gary, son interprétation des oiseaux de passage. Alors là, tout le monde est en train de s'installer pour le débat. Est-ce que... je crois qu'en attendant, je vais repasser un tout petit peu de musique. Allez, une petite courte.
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringues et chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeau, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient. Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri. Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Année 30, Michel Buller. Vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes aujourd'hui en direct du Salon du Livre anarchiste de Merlieu. Et Dominique, tu as le micro.
Voilà, ben merci. Alors, pour ce troisième débat, nous accueillons Frédéric, alors tu verras si je me trompe, Van Leeuwen.
Parfait.
Ah oui, putain, ça passera à mon pied déjà. Voilà. Donc, pour parler notamment de son livre qu'elle a co-écrit avec Cathy Collier. Donc, Cathy Collier, elle est psychologue, clinicienne, et toi, tu es psychiatre.
Voilà.
Voilà. Donc, le titre, Grandir avec des parents en souffrance psychique. Voilà, c'était un peu. Plutôt bien, ici, où on est à 10 km d'un hôpital psychiatrique, de faire quelque chose sur la psychiatrie, d'autant plus que, bon, aujourd'hui, la psychiatrie est en souffrance, là, pour le coup, et qu'il y a beaucoup à faire, et que, bon, si elle ne fait pas déjà l'actualité maintenant, elle le fera forcément demain, puisque la situation est catastrophique, et je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais il faudra faire quelque chose. Alors là, on va parler d'un aspect un peu particulier, c'est celui de, tu me diras si je déforme tes propos, mais c'est celui d'une prise en compte par les auteurs du discours, des témoignages des enfants qui ont des parents en souffrance psychique. Et que, bon, dans un traitement lambda psychiatrique des parents, eh ben, ces enfants-là, que deviennent-ils? Ils sont placés, tu vois. Mais que deviennent leurs paroles alors que ce sont des protagonistes qui sont les premiers à diagnostiquer la maladie de leurs parents, comment ils la vivent, comment ils la transcrivent. Et moi, je trouve ça, c'est un livre vraiment formidable, hein, Edouard, qui est accessible à tout le monde. C'est écrit, ça, bravo, hein, parce que les livres sur la psychiatrie, c'est imbuvable, hein, j'allais dire, c'est des termes, et là, c'est vraiment abordable. Beaucoup de témoignages, c'est-à-dire que, bon,
on voit bien que la théorisation de ce qui est de ce qui est défendu comme position, c'est à partir d'un matériel qu'on nous restitue, et on pourrait faire la même analyse, mais on nous aide à suivre ce qu'il faut comprendre, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé, et du coup bravo,
merci.
Et puis j'aimerais bien savoir, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de consacrer du temps, de l'énergie à cette question des enfants dont les parents sont en souffrance psychiatrique.
C'est vraiment une question qui s'est imposée à moi il y a bientôt une vingtaine d'années, qui a d'ailleurs complètement infléchi ma trajectoire de vie, puisqu'à l'époque j'étais pédopsychiatre et que depuis lors je suis devenue psychiatre d'adultes pour pouvoir justement soutenir qu'à l'hôpital psychiatrique on puisse aussi s'adresser aux enfants des patients. Et donc qu'est-ce qui a donné cette idée? À l'époque je travaillais dans en France vous appelez ça des CMP, des CMPP, à Bruxelles. Il y avait les enfants qui venaient parce qu'ils venaient consulter un pédopsychiatre ou une psychologue dans l'équipe enfant, mais il y avait aussi des enfants qui attendaient sagement dans la salle d'attente, ou certains moins sagement la salle d'attente, leurs parents qui étaient en consultation. Parfois ils faisaient leurs devoirs comme ça, ou parfois ça leur arrivait de courir un peu dans les couloirs, d'aller frapper au bureau, et on se demandait un peu que faut-il, à quel titre s'adresser à ces enfants. Et on a commencé à vraiment vouloir s'interroger, et on a créé à l'époque des groupes, un groupe d'enfants, un groupe d'ados, qui avaient comme point commun d'avoir un parent qui venait consulter en psychiatrie ou qui était hospitalisé en psychiatrie. C'est toute une aventure, je pourrais peut-être en dire quelques mots, mais ça m'a en tout cas poussé à enquêter, vraiment à faire des enquêtes de terrain auprès d'enfants qui avaient ce type de vécu, et particulièrement des jeunes adultes, des tout jeunes adultes, qui avaient vécu cette situation et qui en étaient à peine sortis, pour vraiment être au plus près de leur témoignage. Et une jeune fille qui s'appelle Christelle, qui avait 17 ans, c'est vraiment son témoignage, je pense, qui m'a complètement bouleversée. En fait, c'était à l'époque où nous mettions en place ces groupes d'enfants et d'ados. On prospectait un peu dans les institutions de placement bruxelloises pour voir s'il y avait des enfants concernés, qu'il y avait un parent en psychiatrie qui était placé pour ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de non-dits. On s'est présenté dans une institution un soir avec la psychologue qui allait s'occuper du groupe d'ados. C'était la fête de l'Aïd. Et donc il y avait plein de jeunes qui passaient, qui entraient, qui sortaient dans tous les sens. Et c'était un soir d'hiver, il faisait noir. Il faisait 18h30, 19h, il faisait froid. Et l'éducatrice qui nous ouvre la porte nous dit « Ah oui, les enfants d'eux, on a complètement oublié que vous deviez venir. Mais attendez, vous pouvez entrer quand même, venez. » Et on nous tape dans un salon, et puis on nous tape deux jeunes comme ça, et tout le monde s'en va. Débrouillez-vous avec eux. Et c'est vraiment indicateur de comment cette question-là, elle met plein de professionnels, plein d'adultes mal à l'aise. Parler de psychiatrie aux enfants, c'est vraiment un truc qui semble hyper compliqué pour les jeunes. Et le plus fou, et ce qui continue comme ça à m'étonner tout le temps, c'est à quel point c'est difficile pour les adultes de parler psychiatrie à des enfants, et à quel point, quand tu donnes la parole aux enfants, les enfants, ils l'apprennent, mais instantanément. Il y a une sorte de décalage, de case-vide comme ça, entre cette difficulté des adultes et cette simplicité avec laquelle les enfants l'abordent. Alors donc, voilà, on a dit à Christelle et à l'autre jeune qui était avec elle, ben voilà, nous, on met en place des groupes pour des jeunes, on voudrait bien écouter un peu leur point de vue, savoir quelles sont leurs questions, leurs vécus. Et Christelle nous a répondu, je m'en souviendrai toujours, toute notre enfance, mon frère et moi, on a accompagné notre mère à la consultation du CMP. Le psychiatre venait la chercher dans la salle d'attente, il la prenait, il la voyait et il la ramenait. Jamais il ne nous a dit ni bonjour ni au revoir. Et nous, on repartait avec notre mère et c'est nous qui allions acheter les médicaments. Et le psychiatre, je suis sûre qu'il n'a jamais vu comment elle était vraiment, parce qu'avec lui, elle se tenait. Il n'a jamais vu les crises qu'elle faisait à la maison. Et il y avait dans ce témoignage, c'était tellement lapidaire, tellement évident comme témoignage, il y avait à la fois de la colère, Il y avait un sentiment d'injustice. Et puis alors, elle nous a dit, voilà, maintenant, moi, j'ai demandé mon placement. Donc, elle avait 17 ans. J'ai enfin le temps d'aller à l'école. J'ai enfin le temps de m'occuper de moi. Alors, vos groupes, ça aurait été bien pour moi avant. Mais maintenant, c'est trop tard, parce qu'il est temps que je pense à moi. Et venir parler de ma mère, ce serait encore parler d'elle. Et voilà, ça disait tout. Ça a été pour moi le point de départ de tout un cheminement sur comment prendre en compte les enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un psychiatre, dans une salle d'attente, ne dit ni bonjour ni au revoir aux enfants? Il y a un film absolument magnifique qui s'appelle La forêt de mon père, qui est fait par... c'est un film belgo-français. La réalisatrice s'appelle Véro Kretzborn. Et donc, c'est La forêt de mon père, et c'est l'histoire de trois enfants. C'est un film qui est Alors, il n'est pas autobiographique, mais il est inspiré par des événements biographiques. Et donc, c'est un couple qui a trois enfants. Il y a une ado, un garçon de 9-10 ans, et puis une plus petite fille. Ils sont trois. Et le père décompense. Il est élagueur d'arbres, et puis il décide de plus élaguer les arbres. Et puis, tout ça à partir d'une conversation avec un chat. Mais bon... Donc, il sombre comme ça progressivement dans une sorte de folie, et on assiste vraiment à comment une famille peut être complètement... Tous les mécanismes sont merveilleusement décrits. Le film est vraiment superbe. À un moment, le père est dans une grande surface avec ses trois enfants, et il délire. Il se déshabille, les vigiles s'en mêlent, etc. Et donc, gros traumatisme. Comme ça peut arriver dans la vie réelle. Et donc le père est embarqué à l'hôpital avec les trois enfants, et la mère vient les rejoindre à l'hôpital. Et dans la scène du film, on voit le psychiatre qui passe la tête par son bureau, voit la mère, les trois enfants assis devant son bureau. Son regard survole les enfants. Il s'adresse à la mère en disant « Je peux vous voir seule ?» Il l'emmène, on laisse les enfants seuls. Et quand il ramène la mère, il ne dit ni bonjour, ni au revoir. Et la réalisatrice me racontait qu'elle a dû demander au comédien trois fois de refaire la scène, parce que le comédien, il ne savait pas s'empêcher de dire bonjour aux enfants. Et elle lui a dit, non, dans la vie, c'est comme ça, le psychiatre, il ne dit pas bonjour aux enfants. Alors, ça peut sembler extrêmement choquant quand tu entends ça vécu et raconté comme ça, et c'est extrêmement choquant du point de vue des enfants, parce que le psychiatre qui vient chercher... qui a vu le parent est peut-être la seule personne qui peut lui dire quelque chose sur ce qui arrive à son parent. C'est parfois, il y a des enfants qui vivent seuls avec un père, une mère très malade. Le psychiatre est parfois le seul qui soit au courant, et c'est celui-là qui ne s'adresse pas. Et ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis dit, à l'époque j'étais encore pédopsie, donc dans mon CMP, j'ai trouvé les psychiatres en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est une sorte d'énorme malentendu. L'enfant, lui, il attend qu'on s'adresse à lui, d'être reconnu. Et pour le psychiatre, l'enfant, il fait un peu partie de la vie privée du parent. Ce serait intrusif de lui dire bonjour. Et donc, de son point de vue à lui, il est dans le respect. Là, du point de vue de l'enfance, il est violent. Et donc, c'est entre tout ça qu'il fallait commencer à tisser des ponts. Voilà, ça, c'est le point de départ.
Oui. Et bien, c'est une belle... Bon, c'est une belle introduction, parce que en fait, tout le livre, c'est un peu comme tu viens de le faire. Et parce que ça part du vécu, de témoignages, et c'est assez amusant. Enfin, moi, j'ai travaillé en psychiatrie aussi, hein, donc je m'ai intéressé particulièrement. Mais de voir comment les enfants y portent un diagnostic avec des images, avec leurs mots à eux, et moi, ma mère c'est une bougie, hein, elle est dure comme ça, mais à un moment elle est molle, puis elle fond, et en fait comme à travers des images comme ça, mais ils disent beaucoup de choses, quoi. Et toi, bon, je sais pas, je pense que tu en as beaucoup d'exemples comme ça, je suppose, il y en a plein de livres.
Je me souviens très bien de cette petite fille. Alors, Cathy et moi, on est vraiment partie des témoignages des enfants qu'on rencontrait, ouais, mais aussi de leurs dessins. Alors, il y a on utilise beaucoup les collages Et la couverture du livre, elle représente un arbre qui semble un peu décharné, un peu mort, avec une petite caverne au milieu et un enfant dedans. Et c'est un jeune garçon d'une douzaine d'années qui fait ce collage. Et voilà ce qu'il en dit. Il dit, ce garçon est monté dans son arbre. Il l'a choisi parce qu'il a l'air magique avec ses branches toutes tordues. Il est seul, c'est triste, mais de là-haut, il voit l'horizon. La nature lui fait du bien, les gazouillis des oiseaux et le bruit des feuilles le détendent. Il pleure, mais il rêve aussi. Il rêve à son futur, c'est son petit cocon. Il y a beaucoup de raisons, pas toujours facile à identifier. Il a 12 ans. Hein. On souffre de voir son parent souffrir. On souffre de ne pas avoir un parent comme les autres. On regrette de ne pas avoir une enfance ou une adolescence normale. Et alors, ça, c'est son témoignage à lui, mais je trouve que quand les enfants commencent à parler de la maladie du parent, de ce qu'ils voient, et c'est... Alors, le temps a passé, donc maintenant, je viens au temps présent où je travaille dans un hôpital psychiatrique pour adultes. Je travaille dans l'équipe mobile de crise qui va à domicile. Et forcément, quand on va à domicile, on voit des enfants au domicile qui sont là avec les parents. Et donc, on fait de la consultation familiale avec enfants autour de la question tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la maladie de votre parent sans oser le demander. Ça, c'est la consigne qu'on leur donne. C'est vraiment un lieu où vous pouvez poser toutes les questions. Et on commence toujours avec, tiens, est-ce que vous savez ce que votre père ou votre mère, il fait ici? Ou bien, pourquoi est-ce que l'équipe mobile vient le voir? Est-ce que vous avez remarqué, tiens, et quoi? Et depuis quand est-ce que vous l'avez remarqué? Et à quoi vous le voyez qu'il n'est pas bien? Et les enfants vous donnent comme ça des petits signes. Ah, ben maman, avant elle racontait des histoires, puis maintenant elle n'en raconte plus. Oh, ben ça fait longtemps. Ah oui, c'est quand je suis entrée au CP. Ah, ben ça fait quand même 2-3 ans, oui. Et puis tu vois d'autres choses. Oui, elle pleure beaucoup. Elle ne mange plus, elle nous fait à manger, mais elle ne mange pas. Enfin, ils voient des choses que les cliniciens, ils ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas dans la vie réelle avec les gens. Et les enfants, en plus... alors, je trouve que ce qui est parfois un peu dangereux, c'est que comme personne ne leur explique, on veut les protéger. C'est toujours l'idée. On veut protéger les enfants. Et comment on veut protéger les enfants? En leur disant rien. En se taisant. En espérant, parce qu'on pense que parce qu'on ne leur en parle pas ou qu'on ne leur demande rien, ils ne voient pas. C'est le contraire, évidemment, qui se passe. Les enfants, ils sont témoins. Et donc, les laisser dans le silence, c'est vraiment les laisser forger des explications qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, j'ai eu un mauvais bulletin, ou les derniers enfants que j'ai vus, c'était « on se dispute trop ». On se dispute trop, on énerve maman. Enfin, donc, ils se forgent comme ça des explications où souvent, ils sont pour en partie responsables de la maladie du parent. Et donc, il y a... Ou parfois, on ne l'aime pas assez. Ça revient aussi. On ne lui donne pas assez d'amour. Et donc, on est souvent amené... Enfin, dans la plupart de ces consultations, Stéphanie Tange, qui est la responsable de l'espace d'enfants, et moi, qui est infirmière, on doit souvent détricoter les choses en expliquant... Alors, on y va à la grosse louche, hein. Si ta maman est avec une pneumonie au lit et 40 de fièvre, est-ce que tu penses vraiment que c'est ton amour qui va la guérir? Ah ben non, il faut des médicaments, etc. Il dit bien, une dépression, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que tu penses que l'amour, ça guérirait une dépression? Non, alors, c'est exactement comme la pneumonie. Si tu es avec 40 de fièvre au fond de ton lit et que tu n'es pas bien, tu es content d'avoir une famille aimante autour de toi, des enfants qui, justement, font un peu attention, montrent qu'ils sont conscients que tu es malade et qu'ils essaient de te donner un coup de main. Ben, dans la maladie mentale, c'est exactement la même chose. Il vaut mieux être malade avec une famille qui fait au mieux près de soi plutôt qu'avec des gens qui te critiquent, te maltraitent, enfin, ce qui est parfois le cas, malheureusement, dans certaines familles. Et donc, il faut séparer comme ça cette croyance que l'amour guérit la maladie mentale dans beaucoup de familles.
Mais même quand on... je ne sais plus si c'est toi ou si c'est ta collègue qui demande à un enfant, comment tu vois quand tu vois la chose, par exemple, de quelle maladie elle souffre ta mère. Est-ce que tu as entendu des mots, par exemple, toi, bah, psychose, Vincent de Saint-Denis,
oui, oui,
hein,
le noyau.
Et finalement, le gosse, bon, oui, mais c'est quoi la psychose? Alors, on explique ce que c'est que la psychose. Non, c'est pas ça, hein, toi. Et en fait, elle traduit après la maladie de la peur, je crois.
C'était, ah oui, oui, oui.
C'était vraiment.
Oui.
Mais ça coule de source. Mais c'est là qu'on se rend compte que les enfants, non seulement ils entendent, mais ils portent vraiment un diagnostic et que les professionnels, ben, ils ont plutôt intérêt à tenir compte de l'apport. Quoi.
Alors, ça, je trouve que c'est vraiment une question politique, justement. Mmh. C'est toute cette connaissance qu'ont les enfants, le fait de leur reconnaître, le fait qu'ils ont un savoir, qu'ils ont le droit d'être reconnus, qu'ils ont le droit d'être entendus. Et en plus, qu'est-ce que c'est utile aux professionnels de les écouter, en plus, parce que c'est parfois les premiers à détecter qu'une maman va repasser en état dépressif ou en état maniaque. Enfin, c'est des très bons diagnostiqueurs. Ils sont très, très fins cliniciens, les enfants. Mais politiquement, je trouve que c'est vraiment une question sur laquelle il faut avoir l'œil. Parce que on commence. Alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ça fait 20 ans que des gens au Canada, en France, en Hollande, en Belgique, commencent à s'intéresser un peu aux enfants. Mais du coup, ça devient un enjeu un peu récupéré, dans le sens où les enfants aidants, les enfants pères aidants, deviennent un peu surmis en valeur, comme ça. Comme si l'enfant qui est père aidant faisait un super boulot qu'il faut absolument valoriser, et donc il faut leur faire des formations, il faut les réunir, et c'est vraiment une sorte de détournement de tout ce que nous professionnels on peut dire de ça. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune validité au fait qu'un jeune soit obligé de s'occuper en même temps de sa mère qui conduit à 15 ans, à la consultation, dont il s'occupe plusieurs heures par semaine, en s'occupant en plus de ses petits frères et sœurs, etc. Il n'y a aucune justification au fait qu'une jeune fille ou un jeune homme qui fait ça soit obligé de faire ça tout seul. Tout seul. Et cette tendance qu'on a actuellement, enfin, c'est Hélène Daftian, ici en France, qui est chargée de recherche auprès des jeunes proches et parentalité, le fait souvent remarquer. Comment dire, l'enfant, il est mis dans cette situation, il n'a pas choisi cette situation-là. Il est contraint par la situation d'exercer cette fonction qu'on appelle parentification, hein, ou adultification. Il est contraint de le faire de par la situation. Les enfants sont spontanément aidants. On le voit déjà chez des tout petits enfants, ils essayent d'aider les enfants. Mais il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le fait de survaloriser cette position-là, en les formant en plus, alors qu'en fait, il s'agit au contraire de ne pas les laisser seuls dans cette situation et de pouvoir être avec eux, à côté d'eux, à chercher des solutions. Trop souvent, on est dans un type de solution qui est soit de les placer, et c'est extrêmement violent. Moi, je me souviens d'une... Il n'y a pas d'enfant ici. D'une petite fille qui avait été placée, sa mère est morte 2 jours plus tard. Elle s'est suicidée. Cette gamine, deux ans plus tard, elle ne s'en remettait pas. En fait, le juge lui avait dit, est-ce que tu es d'accord? Il avait vu cette petite fille et lui avait demandé, est-ce que tu es d'accord d'être placée? La petite avait répondu oui. Et puis sa mère meurt 2 jours plus tard. 2 ans plus tard, elle était à ma consultation. Et elle me reparle de ça, elle me dit si j'avais pas dit oui au juge, ma mère ne serait pas morte. Alors on est retourné voir le juge de la jeunesse, qui a pu vraiment faire son mea culpa. Elle avait préparé ses petites questions avec elle, donc on est retourné voir le juge. Et alors elle lui a demandé, et si j'avais dit non, est-ce que tu m'aurais placé? Et il a dit, oui, évidemment je t'aurais placé, et c'est une question que je n'aurais jamais dû te poser, je ne me suis pas rendu compte à l'époque de ce que je te demandais. Et bon, elle a été très soulagée de ça. Donc l'idée n'est pas de voir où placer les enfants ou leur donner des outils pour qu'ils s'occupent encore mieux de leurs parents. Non, l'idée, c'est comment être à côté d'eux et réfléchir avec eux. Et parfois, le premier service qu'on peut rendre à un enfant, c'est justement de mettre en place les intervenants qu'il faut, que ce soit des infirmiers à domicile, des équipes mobiles à domicile, il y en a de plus en plus, de prévoir une hospitalisation en impliquant l'enfant dans la réflexion de est-ce que ça tient encore la route ou pas, etc. De le considérer, non pas comme un enfant qui ne sait pas, mais comme un être responsable. Moi, je dis que la responsabilité, elle n'a pas d'âge. Un enfant, l'enfant, dès tout petit, peut se sentir responsable et être considéré comme quelqu'un de responsable qui peut participer à une décision dans ce genre de situation.
Mais en même temps, c'est ce rôle d'aider l'enfant qu'on met dans une situation de fait, ça incombe à la société. Hein. C'est une défaillance de notre système de soins de ne pas offrir, dès qu'il y a un drame, et une maladie mentale, c'est toujours un drame au sein d'une famille, de ne pas mettre en place les choses qu'il faut, quoi, tout simplement. Et demander à un gosse de gérer une situation comme ça, alors que souvent dans les hôpitaux psychiatriques, on n'y arrive pas, parce qu'on on s'y prend mal, on manque d'arguments, on n'a pas les infos. Les infos par exemple des enfants, non, on hospitalise les parents, les enfants ils sont placés, hop, ils sont hors jeu, mais on saura rien de ce qui se passe dans les familles.
Hein? Alors je discutais justement en Suisse il n'y a pas longtemps avec il y a une association enfants aidants qui se met en place, c'est des enfants qui ont grandi dans cette situation-là et qui adultes ont décidé d'aider d'autres enfants qui étaient encore dans cette situation-là, notamment avec des actions de parrainage. Donc un adulte parraine comme ça un enfant plus jeune dans cette situation. Et Florian, un des fondateurs de l'association, me disait « Mais moi, je m'en suis sortie parce que je me suis tue. » Il vivait une situation complètement avec une maman vraiment qui avait des épisodes psychotiques extrêmement graves. Et donc... En fait, il s'est tu parce que il savait très bien que s'il allait en parler, on allait le placer ainsi que sa sœur. Mmh. Et donc, on est face avec des enfants qui se défendent de la société, mmh. qui savent.